France Culture.
Et c'est reparti pour les midis. Dans cette deuxième partie, à 13h, j'aurai la grande joie de recevoir Bertrand Belin. Le musicien et chanteur publie son cinquième roman, La Figure, chez POL. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbire. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Y a-t-il trop de monde dans les musées? Comme chaque début d'année, tous les musées annoncent leurs chiffres de fréquentation. Et ils sont très hauts, voire trop hauts. Et la question de la surfréquentation et des conditions de visite se pose à nouveau. Les musées en surchauffe, c'est le dossier du point culture du jour. Marie-Alix Molignan-Leur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée à l'unité de recherche médiation sciences des lieux à Sorbonne Université. Vous êtes aussi postdoctorante à Télécom Paris. Alors depuis début janvier, les musées communiquent sur les chiffres de leur fréquentation. On est proche des records en 2024, ce qui souvent empêche les conditions de visite correctes et en plus abîme les infrastructures. Alors prenons le Louvre par exemple. En 2018, il dépasse la barre des 10 millions de visiteurs. C'était une barre symbolique. Et pourtant, depuis, le musée n'a cessé de communiquer pour attirer de nouveaux visiteurs. Alors comment expliquez-vous ce double mouvement qui peut paraître un peu paradoxal, c'est-à-dire une surchauffe problématique et pourtant toujours une recherche de visibilité?
Alors c'est assez intéressant à noter en effet. Le musée du Louvre, il faut peut-être aussi catégoriser le cas du musée du Louvre et d'Orsay. On est sur des musées internationaux et nationaux, donc qui ont une visibilité à l'international. Cette mise en visibilité s'explique que dans les années, en 2020, les infrastructures ont été fermées et donc retrouver l'expérience des musées après ces périodes d'enfermement a été quelque chose d'assez important. On a pu analyser ce retour assez fort en fait du tourisme de masse dans ces institutions culturelles. Donc en fait, ça s'explique par cette réouverture et cette volonté
de post-Covid en fait. C'est après le Covid où finalement il y a eu un rebond et tout le monde a voulu retourner dans les musées.
Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période Covid, c'était assez intéressant à analyser, on avait donc les musées cherchaient une manière de maintenir le lien avec le public. Donc les plateformes numériques ont été des endroits, des lieux qui ont permis de promouvoir les collections, d'expliquer ce qu'il en était. Et donc, même si c'est pas du tout idéal, il y a eu évidemment les équipes ont dû s'approprier assez rapidement ces outils pour faire continuer la question de valorisation de ces œuvres d'art et de présentation des collections. Eh bien, ça a permis, mine de rien, de maintenir ce lien avec le public qui a eu envie de retrouver et de renouer l'expérience au sein des musées. Donc, on est dans cette suite logique-là.
Alors, dans l'article que vous venez de faire paraître dans The Conversation, vous expliquez que le ministère de la Culture lui conseille de ne pas accueillir plus d'un visiteur pour 5 mètres carrés, ce qui pour le Louvre représente 14 547 visiteurs. Or, la jauge quotidienne du musée est bloquée à plus du double, à 30 000 visiteurs. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les conditions de visite ne sont pas idéales, par exemple, au musée du Louvre ?
Alors, c'est plus complexe que ça. C'est vrai que je suis partie du principe avec cet article en disant on est dans des bâtiments, donc oui, il y a 4 murs, et donc structurellement, un bâtiment ne peut pas accueillir plus de personnes que sa structure le permet. Mais le problème, en fait, de la jauge quotidienne, c'est et c'est là où ce serait intéressant de pousser ces recherches et de comprendre aussi comment circule, les visiteurs occupent l'espace du musée. Parce qu'on peut très bien constater, ça, les équipes du musée du Louvre en ont bien conscience, qu'il y a une ultra-polarisation des visiteurs au niveau de l'aile de Nons, donc l'aile qui accueille les trois principaux grands chefs-d'œuvre qui sont la Joconde, la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo. Et donc, quand on se promène et quand on visite d'autres espaces du musée du Louvre, on n'a pas du tout cette sensation de surfréquentation et de saturation de l'espace. Donc, il y aurait un travail à mener de manière plus approfondie là-dessus.
Mais donc, ce qui voudrait dire qu'en fait, le gros enjeu, c'est plutôt une gestion des flux plutôt que le nombre de visiteurs ?
Il y a ça, et puis il y a aussi comprendre, parce que on peut avoir un ordre d'idée en fait de combien de temps une personne reste au musée du Louvre. Ça reste déclaratif quand le musée du Louvre fait des études publiques, ça reste déclaratif.
On dit à peu près 2h30, je crois là, en moyenne par visiteur.
Exactement, mais on ne sait pas du tout. Il y a peut-être des visiteurs qui restent le temps de faire l'aller-retour pour aller voir la Joconde, donc peut-être une heure au sein du musée du Louvre. Et donc, dans ce cas-là, prendre le nombre de la jauge stricto sensu ne représente pas forcément, ne veut pas dire forcément grand-chose. Donc, il y aurait vraiment un travail à mener pour essayer d'identifier, de comprendre et d'avoir une vision beaucoup plus claire, comme vous le dites, sur la gestion de flux et comment les personnes se promènent et expérimente et s'approprie aussi cette expérience muséale.
Est-ce que cette surfréquentation abîme aussi les musées en tant que tels, l'infrastructure ?
On le voit en fait. Quand on va au musée, on voit que les salles, pas toutes les salles sont ouvertes. Donc il y a un travail de remise aux normes qui est quotidien et qui est inscrit dans le schéma directeur du musée du Louvre. Donc oui, évidemment, ça impacte. Il y a de nouvelles pratiques aussi, des manières de s'approprier l'espace. Donc je pense notamment, on peut voir dans les cours Puget et Marly, la manière dont on peut s'approcher des œuvres, la manière dont on peut... Voilà, donc évidemment, il va y avoir... l'espace va être approprié et donc on va... les lieux peuvent s'abîmer, mais comme tout lieu qui sont vivants, en quelque sorte. Donc voilà.
Dernière question avant de clôturer cet entretien. Quel est le rôle des réseaux sociaux dans cette surchauffe ?
Les réseaux sociaux numériques ont vraiment cette... sont des porteurs d'images, on peut les utiliser comme publicité autant pour le musée qui va mettre en valeur des expériences sans visiteur, donc on va avoir une image assez idéalisée d'un musée vidé et en même temps ça va être une publicité pour les personnes qui sont au sein du musée, qui se promeuvent en fait au sein de ce musée et donc qui racontent de manière plus ou moins directe leur expérience au sein du musée. Et donc ça, le musée d'Orsay avait travaillé, en tout cas l'équipe des études du public avait travaillé sur justement comment les personnes utilisent les réseaux sociaux numériques pour être, pas des ambassadeurs, mais en tout cas pour promouvoir le musée à leur propre réseau en montrant ce qu'ils ont pu voir, en racontant en fait leur propre expérience. Donc ce sont des passeurs de témoins qui peut-être favorisent et qui peuvent inciter les personnes à passer les murs de musée. Après, petit rappel, on est quand même sur des publics assez particuliers pour la visite du musée. On est sur un public plutôt, on appelle la classe récréative, hein, plutôt classe moyenne supérieure. Pour les touristes qui viennent visiter, il y a quand même ce gros problème du public proche, des voisins en fait, des musées qui là ça reste encore un enjeu majeur pour les musées de les faire venir, en tout cas pour les grands musées, de les faire venir à l'intérieur de ces murs. Et la question des réseaux sociaux numériques, ça peut être une passerelle, mais en tout cas ils n'ont pas pu constater pour l'instant que c'était quelque chose qui permettait à ces publics de franchir le pas.
Merci beaucoup Marie-Alix Molinier-Andler.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, les incendies de Los Angeles ont aussi des conséquences culturelles.
Oui, on compte en effet de nombreux plasticiens et collectionneurs parmi les milliers de personnes dont les maisons ont été détruites par les flammes. Interrogé par le journal Art News, un assureur américain estime qu'il s'agit sans doute de l'une des pertes artistiques les plus importantes jamais vues en Amérique. Le plasticien Paul McCarthy, par exemple, a perdu tout son atelier, tout comme l'artiste vidéaste Diana Tater, qui a vu toutes ses archives, ainsi que des centaines d'œuvres partir en fumée. Los Angeles s'est imposé ces dernières années comme un lieu important de l'art contemporain, avec des galeries internationales, des collectionneurs privés, François Pinault entre autres, et des collections de musées remarquables. Ces incendies sont aussi un drame pour le monde de l'art, d'autant que le bilan ne cesse de s'alourdir.
On connaît les œuvres les plus plébiscitées par les jeunes via le Pass Culture en 2024.
Alors même si l'efficacité du Pass Culture a été remise en cause dans un récent rapport de la Cour des comptes, près de 85% des jeunes de 18 à 20 ans l'ont utilisé en 2024. Alors concernant le cinéma, c'est Vice Versa 2 qui arrive en tête avec 120 000 places réservées via l'application, juste devant L'Amour Ouf et Le Comte de Monte Cristo. Côté littérature, trois autrices sont plébiscitées. Sarah Rivens pour son roman de dark romance Lake Stone, puis Morgane Moncomble et le premier tome de sa saga Un automne pour te pardonner, et enfin l'écrivaine américaine Freda McFadden pour son livre La femme de ménage. Enfin, en musique, le grand gagnant est le rap, puisque les albums les plus achetés sont ceux du groupe PNL et du chanteur Damso.
Et pour finir, Marie, Avignon a inauguré ce week-end son programme Avignon Terre de Culture 2025.
Oui, en 2000, la ville était capitale européenne de la culture et la municipalité a décidé de célébrer à nouveau la culture tout au long de l'année de 2025, au programme notamment la création d'un musée éphémère au cœur de l'église des Célestins, l'inauguration de la nouvelle bibliothèque Renaud Barrault, mais aussi la création de 4 maisons folies, des lieux culturels apparus à l'origine à Lille et qui proposent des ateliers participatifs, des résidences, des spectacles pour rendre la culture accessible dans tous les quartiers de la ville. La municipalité veut ainsi démontrer qu'Avignon est une terre de culture au-delà de son célèbre festival de théâtre de juillet.
Merci Marie, on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles. Il est 13h et vous êtes sur France Culture.